Bonjour, je suis Lucia Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Voici plus d'un demi-siècle que le produit intérieur brut, c'est-à-dire la valeur des biens et services produits au cours d'une période donnée, sert de principal indicateur du progrès d'un pays. Or, d'après Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie, le PIB ne rend pas compte du bien-être général. D'un jour, insiste-t-il, il faut penser la croissance de manière plus solidaire. À un séminaire organisé au cours de l'Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale, il a expliqué que le PIB d'un pays a beau croître, cela ne signifie pas forcément que la qualité de la vie de tous ses citoyens s'améliore.
Le PIB mesure le niveau de l'activité économique, en particulier l'activité des marchés, autrement dit le total des biens et services que les gens achètent et vendent. C'est un indicateur qui a été mis au point après la Grande Dépression, pour servir de thermomètre de l'économie. Malheureusement, depuis son invention il y a 67 ans, il en est venu à servir d'indicateur de bien-être. Le progrès a de nombreuses dimensions. Mais le PIB ne mesure pas la plupart des dimensions pertinentes. Il en mesure une et une seule. Or, il serait par exemple souhaitable d'avoir une lecture de la croissance dans le temps. Peut-elle être durable? Le pays est-il en train de vendre ses ressources naturelles, de déboiser ses forêts, sans réinvestir? Autrement dit, il serait souhaitable d'avoir un indicateur de viabilité. Il faut aussi mesurer le degré d'inégalité. Toute la richesse d'un pays peut être accaparée par un petit nombre d'individus et le pays pourrait avoir un PIB très élevé, un rythme de croissance très élevé, mais le sort de la plupart des citoyens irait en fait de mal en pis. Il faut donc aussi un indicateur d'inégalité.
Mais pourquoi l'inégalité importe-t-elle sur le plan économique ?
Inequality in itself may give rise to instability.
En soi, l'inégalité peut être cause d'instabilité, et les corrélations entre les deux sont controversées et complexes. Mais permettez-moi de vous donner quelques exemples. Que s'est-il passé aux États-Unis avant la crise ? Les classes moyennes n'allaient pas très fort. Et comme elles n'allaient pas très fort, la consommation, c'est-à-dire la demande de biens, marquait le pas. Craignant que cette consommation poussive ne fragilise l'économie, la Banque centrale a abaissé les taux d'intérêt et déréglementé à tout va. Résultat, une bulle économique. Les prix des logements se sont envolés, mais tandis que les prix des logements flambaient, les banques pouvaient prêter aux gens pour qu'ils consomment, si bien que tout un chacun dépensait plus qu'il ne gagnait. Cela n'était évidemment pas durable. En économie, il y a un principe élémentaire. Quand quelque chose n'est pas durable, cela finit par ne pas durer. La bulle a crevé et nous en subissons maintenant les conséquences. Le monde entier, d'ailleurs, en a souffert. Il y a donc une corrélation manifeste entre l'inégalité et les problèmes actuels. L'autre exemple, bien sûr, est celui des pays qui laissent les inégalités se creuser excessivement, qui laissent le chômage atteindre un niveau trop élevé, ce qui crée toujours un risque d'instabilité politique.
Qu'en est-il des pays à faible revenu ? Que peuvent-ils faire pour promouvoir une croissance solidaire ?
Un des impératifs est de veiller à ce que le système financier englobe l'ensemble de la société, qu'il ne travaille pas uniquement avec les grandes entreprises, mais aussi avec les PME, qu'il y ait un système de microcrédit, bref, un système financier inclusif. Bien entendu, pour que la croissance soit largement partagée, il faut aussi un système éducatif, un système qui soit aussi généralisé, qui assure l'éducation et des filles et des garçons. Il importe de faire en sorte que tous les citoyens, quel que soit le revenu des parents, puissent donner toute la mesure de leur potentiel.
À votre avis, que doivent faire les pays avancés et les grandes institutions pour promouvoir cette croissance solidaire ?
Il y a au moins trois grands axes. Le plus évident, c'est l'assistance qu'ils peuvent apporter aux pays pour les aider à promouvoir la croissance. Beaucoup des pays pauvres, des pays à faible revenu, n'ont pas les ressources nécessaires. Deuxièmement, il faut qu'ils ouvrent leur marché. Il ne suffit pas d'apporter une assistance. Encore faut-il donner les moyens de générer cette croissance. Enfin, beaucoup des stratégies prônées par les organisations internationales par le passé ont, nous le voyons aujourd'hui, produit l'inverse des effets recherchés. La déréglementation, la libéralisation, conduite à tort et à travers, peuvent causer non seulement plus d'instabilité, mais aussi produire une croissance qui ne profite pas aux pauvres, une croissance moins solidaire. Je pense donc que ces trois lignes d'action devraient faire la différence.
À votre avis, est-ce que la mondialisation de l'économie a changé de physionomie au cours des 10 dernières années ?
Oui, la mondialisation a pris un autre visage et notre compréhension de la mondialisation a aussi changé. Je pense que la crise de 2008 a beaucoup appris à des tas de gens. Par exemple, depuis quelque temps, le FMI parle beaucoup plus d'inégalités. Lorsque j'étais à la Banque mondiale, il y a une dizaine d'années, on n'entendait presque jamais parler d'inégalités, en tout cas au plus haut niveau de direction. Aujourd'hui, je pense que le problème est pris beaucoup plus au sérieux. L'évolution du G7 au G8, puis au G20, en dit long à ce sujet. Elle part du constat que pour résoudre les problèmes planétaires, il faut que les pays émergents soient de la partie. Mais je crains, malgré tout, que l'on perde de vue les préoccupations des pays les plus pauvres du monde. Ce qui prime, ce sont les rivalités entre les pays développés, ce que peuvent faire l'Europe et les États-Unis pour déjouer une crise. Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Et, en un sens, à cause de ce repli, ils n'accordent pas l'attention voulue à l'essentiel. Comment faire en sorte que notre système économique mondial fonctionne mieux? Nous vivons dans une société mondialisée, et si nous ne faisons pas plus d'efforts pour améliorer tout ce système mondial, qui est le nôtre, il cessera de fonctionner.
C'était Joseph Stiglitz qui a donné le ton des discussions lors de l'Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale. Vous pouvez suivre les interventions d'autres participants, y compris Paul Collier de l'Université d'Oxford et Josette Chiran du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Pour cela, connectez-vous au www.imf.org/lespodcasts.